Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'été arrive, mais aussi la fin des restrictions sanitaires et avec une furieuse envie d'aller prendre un verre en terrasse, de s'inviter au resto, de sortir, de danser, bref, de vivre. Et au milieu des réjouissances de l'été qui vient, pourquoi ne pas caler aussi un pèlerinage? En effet, loin de l'image poussiéreuse que l'on peut s'en faire partir en pèlerinage, n'est-ce pas là une vraie aventure, d'un autre ordre certes? En latin, aventure signifie adventura, soit être ouvert. Partir en pèlerin, n'est-ce pas une manière de lâcher ses repères, ses sécurités, de partir vers l'inconnu? Nous vous proposons ce matin une mission de pèlerinage pour chercher à revivre, à gonfler ses poumons, mais vraiment jusqu'au bout. Été 2021, et si on partait en pèlerinage, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Gaëlle Delabrosse. Vous êtes journaliste conférencière et auteur de multiples ouvrages, dont un à paraître intitulé « Éloge du pèlerinage », qui paraîtra donc aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour.
Est avec nous Martine Salomon, vous êtes ancienne responsable régionale des pèlerinages diocésains pour Midi-Pyrénées et l'actuelle directrice diocésaine des pèlerinages pour le diocèse de Montauban. Bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir invités.
Est avec nous Serge Solignac, vous êtes prêtre, curé et prêtre accompagnateur donc de pèlerinage pour ce même diocèse. Bonjour.
Bonjour.
Est avec nous Martine Dufour, vous êtes notre témoin du jour et vous êtes pèlerine. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer avec vous, Gaëlle Delabrosse. C'est vrai que quand on pense pèlerinage et qu'on est journaliste, on a vite votre nom qui vient en tête. C'est d'une certaine manière un peu maintenant votre marque de fabrique. Je dis ça évidemment sans moquerie aucune. Allez, tout simplement, quand, comme tous les Français, vous voyez l'été arriver et surtout les restrictions sanitaires se lever, vous n'avez qu'une envie, c'est de repartir.
Oui, oui, c'est vrai qu'on a des fourmis dans les jambes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup marché. On a découvert la proximité. En fait, on a fait des démarches de proximité pendant ces confinements. Mais maintenant, le grand air et le grand dehors nous appellent.
Alors, vous venez de publier à nouveau un ouvrage intitulé « À Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques ». C'est aux éditions Salvator. Et donc, c'est un ouvrage collectif dont vous avez assuré la direction. Et puis, vous allez publier donc un ouvrage « Éloge du pèlerinage ». On pourrait citer les multiples ouvrages que vous avez publiés, entre autres un guide spirituel des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous avez été vous-même pèlerine et puis vous avez attrapé le virus. Pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce virus que vous avez attrapé, Gaëlle Delabrosse? Vous vous êtes mis un jour à pèleriner et puis après vous ne pouvez plus vous arrêter?
Oui, oui, c'est à peu près ça. En fait, le premier pèlerinage que j'ai effectué, c'était très tôt, à 16 ans, en 1982. Je suis arrivée donc à Fatima après un mois de marche dans le cadre d'un camp itinérant avec des jeunes. Et c'est là que j'ai attrapé le virus et pendant 8 étés ensuite. J'ai pèleriné à l'étranger. Enfin, je suis partie toujours dans ce cadre collectif de camp itinérant où j'ai encadré des jeunes, parfois des jeunes défavorisés qui n'étaient jamais partis de chez eux, qui n'avaient jamais vu ou en tout cas, j'allais dire vu la mer. Mais oui, c'est à peu près ça parce que dans l'un de ces pèlerinages, on est arrivé à Saint-Jacques de Compostelle. Hein, donc j'ai été vers Rome, vers Assise, vers Częstochowa en Pologne. Et puis une année, je suis arrivée à Compostelle, donc sans vraiment le vouloir parce qu'à l'époque, c'était pas balisé. Hein, c'était en 1986, enfin très peu balisé, on va dire. Et c'est en arrivant à Saint-Jacques de Compostelle que j'ai vraiment eu, on va dire, un flash parce que c'est difficile de le décrire autrement. Et
alors on y viendra si ça vous embête pas sur le choc spirituel. Peut-être oui. Si on en reste au début, je le disais et je vous ai piqué l'information parce que vous semble-t-il vous le rappelez assez largement dans certaines de vos interviews, l'étymologie donc d'aventure. Vous rappelez aussi donc adventura, être ouvert. Vous rappelez aussi l'étymologie du verbe, enfin comment dire, du pèlerinage, qui est pour le coup pèlerinage, c'est rappelez-nous.
Ah oui, alors le pèlerin, le pérégrin, hein, comme on disait en ancien français, c'est celui qui va au-delà de son champ, donc père à travers, à guerre le champ, et donc qui part de chez lui, hein, comme Abraham et le peuple hébreu, qui il répond un peu à l'injonction hein, de quitte ton pays, ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Hein. Donc il se met en marche vers une terre promise, hein, parce que autrefois, au Moyen-Âge, chaque lieu de pèlerinage était l'équivalent de la Jérusalem céleste. Hein. C'était vraiment une marche sacrée, ça l'est toujours. Et donc on se met en marche vers un sanctuaire.
Alors justement, donc Adventura, être ouvert pour l'aventure, pèleriner, donc c'est père aguerré, donc c'est aller au-delà de son champ. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui ont une image un peu désuète des pèlerinages? N'est-ce pas en fait un peu une caractéristique de la modernité que de regarder le pèlerinage comme ça, quand depuis des siècles et des siècles, c'est au contraire la grande aventure par excellence?
Oui, alors il faut distinguer deux sortes de pèlerinages. Hein. Il y a les pèlerinages qui sont des lieux de pèlerinage. On pense à Lourdes, on pense à Lisieux, on pense à Pontmain, à Sainte-Anne-d'Auray. Donc ce sont des lieux où on ne va pas forcément à pied. Et puis il y a tous ces lieux de pèlerinage qui ont connu une renaissance vraiment spectaculaire, hein, comme les chemins de Saint-Jacques, on en parlera. Mais donc là, ce sont des lieux vers lesquels on va à pied. Et la randonnée pédestre, hein, on le sait, aujourd'hui, il y a plus de 20 millions de Français qui pratiquent la randonnée, hein, 8 millions qui la pratiquent de façon assidue. Et cette manière de partir, se reconnecter avec la nature, ralentir le rythme, connaître une sorte de décroissance, de sobriété, enfin, on voit bien tous ces concepts, hein, sont vraiment correspondent vraiment à un besoin actuel et contemporain.
Alors Gaëlle Delabrosse, que l'on décide de partir en pèlerinant, c'est-à-dire en marchant au sens propre, ou alors en allant dans un lieu de pèlerinage, puis avec la distinction que vous avez faite, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs? Qu'est-ce que vous y voyez comme vertu? C'est de fait tenter un peu une grande aventure, une aventure intérieure?
Ah oui, pour moi c'est vraiment l'aventure par excellence, hein. C'est vraiment le fait de faire un break, de couper, je sais que Bernard Olivier, hein, qui amène des jeunes délinquants sur les chemins de Saint-Jacques, utilise ce mot de rupture, puisque vous savez que le mot route vient de rupta, hein, c'est le prendre la route, se mettre en route, rupta, c'est vraiment la rupture avec la société de consommation, avec le toujours plus, voilà, on part aussi parce qu'on a besoin de se rapprocher de la nature, hein, on est la plupart d'entre nous des citadins, on a besoin de se reconnecter avec la nature, et on a besoin aussi, c'est Henri Vincenot, hein, qui dans son livre Les étoiles de Compostelle a insisté sur ce thème-là, de se remettre debout, hein, de se remettre à la verticalité, hein, nous qui sommes des assis, hein, on est assis dans notre voiture, devant notre ordinateur, on a besoin de remettre notre corps en mouvement, et quand on marche, on sait qu'on fait l'énumération de tous les muscles, les os, etc., voilà. Et puis aussi de redonner un sens à sa vie, hein. Il y en a beaucoup qui partent, et on parlait tout à l'heure de modernité, de contemporanéité, et il y en a beaucoup qui partent justement parce qu'ils sont à une fracture de leur vie. On parlait de fracture tout à l'heure, de rupture, qu'ils ont connu un divorce, le chômage ou un burn-out souvent, hein, et puis des anniversaires, le passage de la quarantaine, enfin en tout cas un bouleversement dans leur vie, voilà. Et on part souvent à ces moments-là pour redonner un sens à sa vie.
Alors, notre témoin du jour, Martine Dufour, qui est notre pèlerine, probablement ne nous dira pas le contraire, on l'entendra tout à l'heure. On profite du fait que vous êtes avec nous juste pour le début de l'émission, pour vous donner un peu largement la parole. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous êtes arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle? Donc vous dites vous-même, je me permets de vous poser la question parce que vous en avez témoigné à plusieurs reprises, et que c'est pour vous une manière donc d'expliquer que l'on peut pèleriner un peu malgré soi ou sans forcément avoir conscience de ce qui va nous arriver, et puis avoir une vie, voir sa vie être transformée. Vous parlez d'un choc spirituel, vous, quand vous êtes arrivé en 1986 à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, c'est très difficile à exprimer. Effectivement, je me suis sentie chez moi, en fait. Je me suis sentie très bien dans cette ville, et je savais, enfin, je le pressentais que ça bouleversait ma vie, en fait. Et du coup, comme moi j'y étais venue par le sud, hein, j'avais marché un mois en Galice pour arriver à Compostelle, mais sans suivre les balises et sans aller vers l'Occident, hein, parce que le Camino Frances que la plupart des pèlerins utilisent va vers l'Ouest, et donc c'est un pèlerinage qui est orienté, ou plutôt occidentalisé, hein, parce qu'il va effectivement vers l'ouest, eh bien, j'ai voulu le suivre 2 années après, donc avec des amis. Alors, je suis brestoise, donc avec des amis, deux amis, en fait, on a essayé de faire un petit groupe. C'était pour le coup en 88, et là aussi, le chemin était vraiment très largement inconnu. Et on a effectué ce Camino Frances pour arriver donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et plus tard, en fait, je l'ai refait en allant jusqu'au Finistère. Et là, j'ai ressenti à nouveau, en arrivant jusqu'à la mer, en fait, un sentiment très fort d'achèvement.
Vous dites à ce sujet, en fait, ma foi, c'est comme si j'ai ressenti un choc très profond, comme si j'avais été frappé par la foudre, une sorte d'appel. Et puis, je crois que j'ai lu dans une autre interview, en fait, que du coup, votre foi est devenue réelle, c'est ça ?
Ou concrète ? Alors, réelle. C'est un mot. Je pense que ma foi est devenue plus personnelle. Hein. Moi, j'aime beaucoup le terme de spiritualité de la route. Et je me suis rendu compte petit à petit que toute notre route était un pèlerinage, en fait, et que toute cette incarnation de la route, hein, que j'avais vécue, avec ses obstacles, avec ses joies, eh bien, c'était ça la vie, en fait. C'était ça la vraie vie, c'est-à-dire que ça donnait un sens à nos vies et que ça nous aidait à mieux vivre, ou je dirais même à vivre, hein, parce que c'est vrai que on en parlait au Moyen-Âge, on disait que l'homme était un homo viator, et on l'oublie aujourd'hui, en fait. Hein, l'homme est vraiment un homme voyageur sur la Terre, un passant, un passeur aussi, mais un passant avant tout. Et voilà, et donc je me suis, voilà, c'est tout ça qui est venu en moi, et surtout ensuite quand je suis arrivée au Finistère, je me suis vraiment rendu compte que là, je mourais à moi-même, hein, on voit le soleil qui meurt et qui, pour renaître à l'Orient ensuite, et on se rend compte, quand on arrive au bout du pèlerinage, eh bien que, on dépose toutes nos lourdeurs, tous nos péchés aussi, hein. Et pour revenir ensuite vers chez soi, on est un homme nouveau, hein. On laisse le vieil homme pour revenir. Alors tout ça c'est pas que des mots, hein. On le ressent vraiment en pèlerinage, et là, moi, à Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai ressenti de manière très forte, et depuis 40 ans, en fait, je marche sur ces chemins. Voilà.
Alors, vous marchez et vous publiez, donc je l'ai dit, vous allez publier un ouvrage, donc ouais. Éloge du pèlerinage, ça sera en octobre prochain, et puis donc, peut-être voilà. Pour finir, un mot sur ce nouveau livre que vous venez de publier, donc, à propos de Saint-Jacques-de-Compostelle, à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques, c'est un ouvrage collectif, il y a du beau monde, hein, des grands voyageurs, Alexandre Poussin, André Veil, Sébastien de Fauze, des historiens, des photographes, des religieux, Monseigneur Emmanuel Gobillard, des écrivains, Jean-Christophe Ruffin. Pourquoi un nouvel ouvrage, Gaëlle Delabrosse, sur les chemins de Saint-Jacques ? Il faut parler de Saint-Jacques, et en fait, il faut aller à Saint-Jacques, c'est ça ? C'est vraiment une aventure bien particulière à vivre une fois dans sa vie ?
Alors, tous ces auteurs, effectivement, le disent, c'est une aventure qui bouleverse la vie. Hein. Ils le disent tous dans ce livre, il y a un avant et un après. Et donc, c'est vrai que ce livre manquait à la littérature jacquère, hein. C'est le seul qui n'existait pas, c'est-à-dire que j'ai toutes ces personnes que j'ai côtoyées, hein, ces 34 auteurs, Alix de Saint-André, effectivement, vous les avez cités, Bernard Olivier, Luc Adrien, etc., Martin Sheen aux USA, qui a réalisé le film The Way. Eh bien, tous ces auteurs que j'avais côtoyés, j'ai voulu leur demander, en fait, un texte inédit d'hommage pour cette année jubilaire, hein, puisque cette année-ci est une année jubilaire, hein, il n'y en a pas eu depuis 11 ans, et je leur ai dit d'exprimer, en fait, ce qu'ils avaient vécu sur le chemin, et aussi ce qu'ils en avaient retiré, hein, comment ils vivaient leur chemin au quotidien, voilà, parce que le chemin, c'est pas une parenthèse, hein, c'est pas une semaine ou un mois de marche, c'est vraiment le chemin de la vie.
Eh ben, merci beaucoup, Gaëlle Delabrosse, d'avoir pris du temps pour nous. Je rappelle le titre donc de l'ouvrage dont vous venez de parler, à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques. Celui-là vient d'être publié aux éditions Salvator, et dans la même maison d'édition, apparaître donc à l'automne prochain. Ça sera Éloge du pèlerinage. Un grand merci à vous. On va faire une première pause, et puis on va parler un petit peu plus de pèlerinage avec nos autres invités, les pèlerinages accompagnés par les diocèses, quid de que sont-ils, quelle différence peut-être avec ce que vous avez exprimé, des profils des pèlerins, et on parlera de quelques destinations déjà pour l'été. Thank you.
Pella.
Été 2021, et si on partait en pèlerinage, point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. C'est avec nous au début de l'émission Gaëlle Delabrosse, qui est journaliste, conférencière et auteur de multiples ouvrages, notamment sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et est avec nous Martine Salomon, ancienne responsable régionale des pèlerinages diocésains pour Midi-Pyrénées, entre autres responsabilités. Serge Solignac, qui est prêtre accompagnateur de pèlerinage, et Martine Dufour, qui est notre témoin du jour et elle-même pèlerine. Allez, une petite réaction à ce que Gaëlle Delabrosse a dit. On va commencer avec vous, Serge Solignac. On l'écouterait comme au coin du feu, hein, quand même, nous parler des pèlerinages. Elle est convaincante.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'elle a dit, qui vous a frappé ou qui...
Ah, le sens spirituel du pèlerinage. C'est-à-dire partir pour pouvoir se retrouver. Ça, moi, ça me paraît absolument quelque chose d'absolument essentiel.
Voilà, quand elle dit que c'est une expérience proprement biblique, ça veut dire quoi ?
Elle a rappelé le départ d'Abraham de sa région de Our pour aller jusqu'en Terre Sainte. C'est-à-dire partir de grosso modo de Bagdad pour arriver à Jérusalem. C'était un pèlerinage, une forme de pèlerinage. Partir avec armes, bagages, les troupeaux, les femmes, enfants, enfin, et puis tous ceux qui étaient autour pour travailler avec eux, c'était un sacré départ.
Bagdad-Jérusalem, c'est combien de... Je sais pas, ça doit bien faire quelques milliers de kilomètres, non ?
De 1500, 2000, ouais, à peu près.
Alors Martine Salomon, les pèlerinages, donc en fait il y en a dans chaque diocèse qui sont organisés,
oui,
hein, il y a des services qui sont dédiés à ça. Quelles caractéristiques à ces pèlerinages qu'on appelle diocésains? Je sais pas quels sont un peu les... C'est la porte d'entrée normale et classique pour tout chrétien dans le fond pour
Alors le fait des pèlerinages diocésains, je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens de partir. On parlait tout à l'heure de Saint-Jacques. Nous avons lancé sur 7 ans ce pèlerinage de Saint-Jacques en tronçon, qui a permis à beaucoup de gens qui voulaient faire ce pèlerinage, mais pas seuls, et on l'a fait à pied entièrement, on est parti de Moissac, et ce qui a permis à des gens seuls de pouvoir partir avec nous, une organisation, enfin, ils se sentaient soulagés au niveau sécurité. Gaël disait, bon, ce pèlerinage de Saint-Jacques l'a marqué. Je peux dire que moi, il m'a marqué aussi, il a marqué beaucoup de pèlerins. Nous avions des gens non pratiquants sur nos pèlerinages qui sont venus pour marcher, mais qui sont, à mon avis, sortis comme pèlerins.
Alors, hormis le fait que ça permet de partir, de ne pas partir seul, on se dit que oui, on pourrait très bien pèleriner et décider par soi-même de partir à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Terre Sainte, ou dans des lieux d'apparition, dans des sanctuaires mariaux. Pourquoi est-ce qu'il est bon, en fait, de se tourner vers les services diocésains ?
Les gens se tournent vers nous, c'est surtout parce que c'est organisé. On a quand même une sécurité en tant que tel, en tant que groupe, puisque nous sommes soumis à certaines restrictions aussi, à faire attention à beaucoup de choses. Ils n'ont pas à l'organiser, donc il y a beaucoup de gens qui ne sont loin de la religion, qui viennent s'inscrire au pèlerinage diocésain parce que bon, ils pensent que l'organisation est telle qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Mais en même temps, c'est vrai que ces gens-là sont en recherche. On ne vient pas s'inscrire à un pèlerinage diocésain comme ça. Moi, je me dis, bon, ils vous disent en arrivant, n'importe comment, je ne suis pas pratiquant, il y a longtemps que je n'ai pas mis les pieds à l'église, mais n'empêche que ces gens-là sont en recherche. On ne vient pas s'inscrire comme ça à la maison diocésaine pour partir dans un groupe. Sinon, on peut aller dans d'autres établissements pour partir en groupe, où il y a aussi de la sécurité. Mais c'est déjà, à mon avis, qu'ils sont en recherche de quelque chose et on s'en aperçoit, le père qui nous a accompagnés, on voit ça vraiment, sur tous les pèlerinages, on voit que les gens cherchent quelque chose et ils trouvent la réponse.
Alors Martine Salomon, justement, on peut se dire aussi quel est le profil des gens qui viennent, grosso modo, qui partent en pèlerinage, enfin ceux que vous voyez par exemple à l'échelle de Midi-Pyrénées. On sait que par exemple sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le fond il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils partent pour marcher ou pour randonner.
Oui.
Vous, quel est leur profil et pourquoi partent-ils ?
Alors, sur les pèlerinages, Terre Sainte, Rome, tous les pèlerinages qu'on peut proposer, les gens sont pour découvrir un petit peu aussi le lieu, les la façon de vivre au niveau leur foi. Hein, au Vietnam, par exemple, le groupe que j'ai emmené a été très surpris de la foi des Vietnamiens. Et en plus, le profil, malheureusement, j'aimerais bien que le profil rajeunisse un petit peu parce qu'on touche quand même beaucoup de gens. Comme on disait un petit peu, le pèlerinage reste ouvert.
Pourquoi c'est surtout des gens d'un certain âge? Parce qu'il faut le temps.
Ils ont du temps, puisqu'ils sont pour la plupart, ils sont à la retraite, donc ils ont du temps. Ils ont les finances, parce qu'un pèlerinage coûte cher. Même si on le fait en France, il y aura un coût quand même. Et voilà, on a ça. Et malheureusement, il faudrait que nos jeunes couples, même nous proposent des lieux de pèlerinage, peut-être, où ils veulent aller en famille. On pourrait peut-être trouver quelque chose qui les amène à partir en famille. Je pense, par exemple, les grottes de Saint-Antoine qui sont au-dessus de Brive. On pourrait très bien faire un pèlerinage familial, mais il faudrait que, si on le propose, qu'il y ait des réponses. Parce que souvent, les pèlerinages à proximité, on a peu de réponses, peu d'inscrits.
Serge Solignac, j'ai souvenir de l'ancien directeur de la rédaction du journal La Croix qui disait en riant que le journal La Croix se portait bien et allait avoir de plus en plus de lecteurs parce que les gens vieillissants, ils finissent par se poser des questions et entre autres des questions sur la mort. Est-ce que c'est cet effet-là que l'on voit chez parmi les profils de pèlerins? Il faut en fait attendre d'avoir un certain âge pour se rendre compte de ce qui est important et avoir des vacances un peu plus essentielles?
Alors, personnellement, je travaille et avec des jeunes et avec des anciens, plutôt anciens avec la paroisse et avec les pèlerinages, et plutôt des jeunes avec les baladins. Bon, pour moi, c'est...
Donc les baladins, c'est un groupe, c'est une communauté que vous accompagnez, oui. Voilà, qui est, on va dire, l'évangélisation par le théâtre.
Oui, c'est ça, c'est la même, oui. Et donc, du coup, j'ai l'impression que les attentes sont les mêmes, mais sur des terrains différents.
C'est-à-dire?
Alors, d'un côté, le jeune, il a une vie qui s'ouvre devant lui et il a tellement de mal aujourd'hui à mettre un sens aux choses. Tellement de propositions lui sont faites, il a l'impression d'un monde qui s'ouvre, qui est immense, devant lequel il se sent un peu impuissant. Et la foi lui donne cette capacité de dire « mais toi, tu es aimé ».
Et il a envie de partir en pèlerinage, lui, ou pas? Il a envie de partir,
l'aventure. Oui, partir à l'aventure, oui. Alors, on le fait d'ailleurs de manière totalement différente des pèlerinages. Nous partons pour pouvoir aller rencontrer d'autres personnes à d'autres lieux, mais pour travailler avec eux. Puisque là, c'est donner à des jeunes la chance de pouvoir se faire de l'audiovisuel dans des pays étrangers, en langue étrangère, donc et oser quelque chose qu'on n'ose pas en règle générale.
Donc si on leur proposait de pèleriner, vous me parliez pendant la pause de l'appel de Jean-Paul II à se rendre au JMJ, vous disiez que ça avait trouvé un écho chez les jeunes, et quelque part c'était une manière de pèleriner ça aussi.
Ah tout à fait, complètement. Et ça là pour moi ça ne fait aucun doute. Hein. Et c'est surtout une pouvoir aujourd'hui poser le fait que je peux avoir la foi et que je peux oser dire mais j'ai la foi, respectez-moi.
Alors, je reviens à ma question. Donc, il faut avoir un certain âge pour se mettre à pèleriner réellement.
Alors, deuxième solution, justement, c'est le pèlerin qui part et qui donc est jeune retraité. Je penserais que c'est surtout dans cette physionomie-là qu'on les trouve. Hein. Les raisons ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la vie qui s'ouvre, c'est une autre vie qui s'ouvre. Et donc là, qu'est-ce qu'il demande? Moi, je me rends compte de plus en plus qu'il demande surtout à avoir un accompagnement. Des gens qui désirent pouvoir parler avec le prêtre, qui désirent pouvoir avoir un temps spirituel dans la journée. Et puis après, par contre, visite de lieux, rencontre avec des gens qui donnent un sens un peu différent à la vie, parce que nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas au même endroit.
Alors justement, Martine Salomon, c'est quoi un peu, qu'est-ce qu'il y a dans le package d'un pèlerinage type? Il y a quoi? Un peu de culturel, du spirituel, des temps fraternels?
Alors quel est le mix, on va dire? On propose les temps de prière, donc le matin, les laudes, soit dans le CARS, qui est souvent au programme le matin. La messe est proposée tous les jours. Je dis proposée puisque ça nous est arrivé sur certains pèlerinages où des personnes vous demandent de ne pas assister à la messe. Donc, on fait une proposition puisque je fais une réunion un mois avant. Donc, on leur dit que, voilà. Mais par contre, qu'ils nous disent où ils sont pendant la messe. Hein, voilà. Après, on a des temps, on a des temps de prière avant les repas. Voilà. Et puis, si on peut, le soir, quelquefois, les complices. l'esprit.
Donc des temps spirituels, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le mix ?
Alors après, il y a les rencontres.
Une dimension culturelle aussi ou...
Comment ?
Une dimension culturelle aussi ?
Oui, alors culturelle, oui.
Quand on va au Vietnam, par exemple, j'imagine.
Oui, alors le Vietnam, je dirais que c'est le PNH qui, depuis 9 ans que je suis directrice, ça fait, je crois que c'est le PNH qui m'a le plus marquée en tant que directrice de pèlerinage pour les rencontres. C'est un endroit où il y a encore des persécutions. Martine en parlera certainement tout à l'heure. Et,
ma question, ce n'était pas forcément que vous nous racontiez le pèlerinage au Vietnam, mais c'était de nous dire qu'il y a toujours une dimension culturelle dans les pèlerinages.
Oui. Oui.
Illustration avec le Vietnam, dans ces cas-là, on y fait quoi en fait ? On va visiter aussi
lieux. On a eu beaucoup de lieux de sanctuaires au Vietnam, puisqu'on était avec un prêtre vietnamien qui nous accompagnait. On a eu des rencontres avec des gens locaux, enfin voilà. Et au niveau culturel, oui, automatiquement, il y a un peu de touristes. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de touristes sur un pèlerinage. Mais on garde toujours, c'était sur Montauban, on avait bien... Voilà, quand j'ai pris ma mission, c'était surtout qu'on mette le cultuel en place et que ça ne soit pas que loisir.
Alors, dernier point, quid de la vie fraternelle ? Est-ce que le pèlerinage, c'est des gens qui veulent partir en voyage et qui partent ensemble mais qui sont un peu les uns à côté des autres ? Ou est-ce que vous vous attachez à ce qui est... C'est quoi ? C'est une expérience d'église aussi, le pèlerinage ?
Oui, tout à fait, une expérience d'église, l'évangélisation et le vivre ensemble. C'est vrai qu'il faut que les gens acceptent de vivre ensemble pendant 8, 10 jours, 15 jours et que ça se passe bien. Hein, donc, jusqu'à maintenant, enfin, on n'a jamais eu, tout le monde a bien compris que si on partait en pèlerinage, c'est le but de la réunion de préparation, hein, que souder le groupe avant de partir.
On verra ça avec Martine Dufour. Hein. Je ne vous oublie pas, Martine Dufour, hein, pardon.
Oui, je suis là.
Voilà, je ne vous oublie pas. Vous nous direz, ça a été un peu votre expérience, ça a été une manière de renouer un peu plus avec la vie d'église. Serge Solignac, quid de l'expérience ecclésiale ? Vous laissez entendre dans vos réponses qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partent en pèlerinage et qui ne sont pas forcément des catholiques très pratiquants, à une occasion dans une vie, enfin, une étape dans sa vie, on a envie d'aller un peu plus loin, donc on part en pèlerinage, vous essayez donc de leur faire vivre ce que vous venez de nous décrire très rapidement. Quid de l'accompagnement ? Comment vous y prenez un petit peu pour les aider à vivre une vie d'église à cette occasion ? Renouer un peu avec la vie d'église ?
Alors, d'abord, première chose, d'abord commencer par leur permettre de comprendre que la foi est quelque chose de personnel et en même temps de communautaire, parce qu'ils ont la dimension personnelle. Ça, la plupart des gens me disent, mais moi, la foi, je l'ai, je crois en Dieu. Et puis après, il y a la fameuse phrase qui, chaque fois, tue tout, mais je ne pratique pas. Et... combien de fois j'ai pu discuter avec eux en leur disant, mais bon sang, mais cette vie de foi dont vous parlez, comment faites-vous pour certifier qu'elle a du sens, que c'est un sens qui peut être pris quelque part, pas seulement dans votre imagination à vous ? Parce que très vite, on bute sur le fait que chacun se crée, allez, je le mets entre guillemets, hein, mais son Jésus à lui, ou son Dieu à lui. Mais quand est-ce qu'il vérifie s'il y a vraiment concordance entre ce Dieu qui se révèle et ce que pense la personne ? Et déjà, quand on commence à parler de ça, ça permet aux gens de déjà se poser la question essentielle, mais qu'en est-il de ma foi ?
Martine Salomon, peut-être pour finir, donnez-nous quelques destinations pour l'été à venir, quelques idées de pèlerinage que l'on pourrait faire.
Alors, nous avons, il y a Lourdes, qui est au mois de juillet, du 23 au 26. Là, j'invite, et j'en profite d'être à la radio, pour inviter les familles. On n'a pas pu partir à l'Ascension avec la pandémie. Il serait bien que, beaucoup de familles viennent nous rejoindre sur ce pèlerinage, qui est sur 4 jours, et possibilité du week-end, si on peut.
Pèlerinage à Lourdes, c'est quoi ? C'est un pèlerinage, on va dire, classique à Lourdes.
Sur 4 jours, avec un programme.
On vit la vie du sanctuaire, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. Et là, possibilité aussi, on vivra aussi avec l'hospitalité, puisque le mois de juillet, il y a l'hospitalité diocésaine qui est avec nous.
L'hospitalité, c'est donc de s'occuper des personnes malades. Hein.
Alors, on partira en petit nombre, puisque les sanitaires nous obligent à prendre peu de malades, mais il aura lieu cette année. Et je crois que ceux qui s'inscrivent attendent ça avec impatience. Surtout nos personnes âgées qui ont été dans les maisons de retraite sans voir personne attendent vraiment cette venue à Lourdes. Même si on est peu nombreux, il faut vraiment que ceux qui sont inscrits partent. Hein, il faut vraiment tout faire pour que...
Donnez-nous quelques destinations un peu plus lointaines.
Après,
par exemple,
nous avons la Russie. Et sur Montauban, il y a la Russie, il y a Rome, mais Rome est complet. Donc, j'en parle pas trop. La Russie, Medjugorje, puisque maintenant nous
alors pouvons... Alors juste, arrêtez-vous sur la Russie. Où est-ce que vous allez en Russie et pourquoi vous partez en Russie?
Alors pourquoi en Russie? C'est un choix... on avait le choix avec l'Arménie, mais on s'est dit, bon, pour découvrir un petit peu ce peuple de Russie, la religion orthodoxe, c'est aussi un lien à tout ça qu'on veut découvrir. Donc on fait Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres petites villes.
Medjugorje, c'est donc, pour rappel, c'est donc un lieu supposé d'apparition, hein,
oui.
Qui ne sont pas encore reconnus.
Non.
C'est donc en Bosnie-Herzégovine, c'est un sanctuaire marial.
Oui.
Vous pouvez nous dire un petit peu à quoi.
Alors, moi, je n'ai jamais été encore.
Hein,
donc voilà, j'emmène un groupe. Monseigneur nous accompagnera. C'est avec joie.
Monseigneur, c'est donc l'évêque de Montauban, le
cœur. Voilà, il viendra avec nous. Donc, Monseigneur Ginous nous accompagnera sur ce pèlerinage. C'est un pèlerinage qui était réclamé quand il était, qu'on ne pouvait pas y aller en groupe, maintenant qu'on y va en groupe, mais venez parce que c'est un pèlerinage très accessible. Là, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un pèlerinage accessible financièrement. On peut y aller en famille. On est juste avant les vacances scolaires. C'est un fait que nos pèlerinages ne sont pas tout à fait en vacances scolaires. Je crois que c'est un lieu à découvrir.
On y vit, pareil, la vie du sanctuaire.
Oui.
Hein, sur
oui.
place.
Et là, on sera énormément avec le programme du sanctuaire.
Serge Solignac, peut-être un petit mot à propos de la Terre Sainte et de Rome. Est-il bon, quand on est chrétien, au moins une fois dans sa vie, d'aller à Rome et en Terre Sainte?
Je crois que si on veut vraiment découvrir tout d'abord le rôle de l'Église, d'abord la vie du Christ, puis le rôle de l'Église, mais je crois que la Terre Sainte et Rome sont vraiment les deux lieux où on sent la présence du Christ en Terre Sainte, et la vie de l'Église à Rome.
C'est-à-dire qu'après, il y a quelque chose aussi, comme quand on est à Saint-Jacques de Compostelle, il y a un avant et un après, vous diriez?
Ah oui.
C'est le retour que vous font aussi les pèlerins?
Oui, ça ne fait aucun doute.
Oui, vous avez un exemple qui vous revient en tête, ou même pour vous-même, peut-être la première fois que vous êtes allé en Terre Sainte, l'effet que ça a eu sur votre vie de prêtre ou de séminariste, si vous étiez séminariste?
Non, j'étais prêtre, pas la première fois où j'y ai été. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une rencontre extraordinaire avec d'abord les lieux, c'est ce qui m'a marqué le plus, et ensuite les personnes, mais là c'est un peu plus compliqué parce que la vie intercène n'est pas facile à l'heure actuelle, et donc on le ressent, et donc pour retrouver le Christ lui-même c'est un peu plus compliqué vu la situation actuelle.
Eh ben merci en tout cas. Donc on va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver Martine Dufour qui va nous partager son expérience. Martine Dufour qui avait une vie bien remplie et qui, une fois la retraite arrivée, a enfin pris le temps de partir en pèlerinage, désir qu'elle avait depuis un certain temps. Et on va voir les beaux fruits que ça a apporté dans sa vie. Je rappelle le titre du livre, l'un des deux livres de Gaëlle Delabrosse qu'on avait au début d'émission. Éloge du pèlerinage, c'est aux éditions Salvator. Thank you.
Radio Présence à Auch 89.6. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Et si on partait en pèlerinage, été 2021, et si on partait en pèlerinage, point d'interrogation, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Il était avec nous pour rappel au début de l'émission Gaëlle Delabrosse, journaliste et conférencière, auteur d'ouvrages donc sur le pèlerinage. Martine Salomon, ancienne responsable régionale des pèlerinages diocésains pour Midi-Pyrénées, Serge Solignac, prêtre et accompagnateur de pèlerinage, et donc Martine Dufour, pèlerine. Martine, merci de votre patience. Comme souvent dans ces émissions, on est bien content d'avoir quelqu'un qui parle à la première personne. Alors vous êtes du Tarn-et-Garonne, vous avez 58 ans, et donc vous êtes mis à... Pardon ? 68 ans, pardon. Et vous êtes mis donc à pèleriner sur le Tarn. Si on fait un petit détour, comme souvent pour ces temps de témoignages sur, on va dire, l'avant... vous m'avez dit donc que vous étiez donc de culture chrétienne, que vous aviez, on va dire, reçu les sacrements d'initiation, comme on dit, et puis eu une vie d'église, entre autres via les prêtres ouvriers. Et puis après, votre vie professionnelle vous a un peu, on va dire, chahuté dans votre pratique. Rappelez-nous pourquoi, ou dites-nous pourquoi.
Effectivement, j'étais famille d'accueil, enfin nous étions famille d'accueil, et dans le cas précis, il n'est pas toujours possible d'associer notre pratique de la foi avec des enfants dont les parents ne sont pas tout simplement d'accord, parfois de notre religion, parfois pour des raisons qui leur appartiennent. Donc j'accomplissais mes rites religieux un peu de manière personnelle, à domicile.
Voilà, donc vous avez élevé, donc, vous m'avez dit donc à peu près une vingtaine d'enfants comme ça, et puis vous étiez en plus la responsable locale, donc vous étiez souvent très prise, y compris le week-end. Donc une vie bien remplie, et puis en 2017, donc, vous avez pris votre retraite. Et alors là, vous est venu l'envie de pèleriner. Comment ça vous est venu?
En prenant ma retraite, j'ai ressenti un sentiment de vide. Et tous ces enfants que j'avais élevés parfois de la naissance à l'âge adulte étaient partis. Mes deux fils vivaient et travaillaient loin. J'ai eu également un besoin d'évasion géographique, mais avec un but religieux et avec des gens qui me ressemblaient.
Vous avez eu besoin de partir à l'aventure, comme je le disais dans l'introduction, d'une certaine manière.
Voilà, et en tout temps avec le besoin d'approfondir ma foi, mais en me confrontant à la parole de Dieu transmise par la Bible, mais d'une autre manière.
Martine Dufour, est-ce que vous aviez des a priori, vous, sur les pèlerinages, où vous disiez que c'était justement une aventure pour les retraités, ou alors que dans un tout autre ordre d'idées, vous inquiétiez de l'aventure spirituelle que ça pouvait être? Quel était un peu votre état d'esprit avant de partir pour la première fois?
J'étais pas très sûre de moi, parce qu'en fait, j'avais fait quelques pèlés comme ça, à la sauvette, je vais dire entre guillemets, à travers la France principalement, mais pas à l'étranger. Et puis, j'avais le sentiment que je n'étais peut-être pas à la hauteur de connaissances religieuses des pèlerins qui partaient. Et j'ai été vite mise dans l'ambiance fraternelle, que j'ai trouvé particulièrement dans les pèlerinages à l'extérieur et auprès de personnes accompagnantes.
Donc vous êtes
mettre à l'aise.
Donc vous êtes parti, vous avez fait de multiples pèlerinages, vous êtes parti à Fatima, à Malte, en Grèce, en Terre Sainte, au Vietnam et d'autres. Si on s'arrêtait juste sur quelques-uns, commençons par la Terre Sainte. Vous m'avez dit donc que c'est un pèlerinage qui vous a beaucoup marqué. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, et puis prendre un exemple peut-être d'un lieu ou d'un moment qui vous a particulièrement frappé?
Alors, ce que vient de dire le père
Serge Solignac.
Voilà, Solignac m'a rappelé effectivement tout ce que j'ai pu ressentir sur les chemins de la croix, sur les lieux saints différents où j'ai pu avancer. Mais ce qui m'a peut-être le plus interpellé, entre beaucoup de choses quand même qui m'ont émue, ce sont les... comment dirais-je, lorsqu'on a fait une célébration baptismale aux sources du Jourdain.
Oui, voilà. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que vous avez vécu sur place et qu'est-ce qui vous a frappé?
Avec le Père Soulignac, on a renouvelé nos vœux de baptême et on a été bénis avec l'eau du Jourdain. Et je me suis sentie purifiée par cet acte. Et je suis d'autant plus interpellée actuellement que le 9 juillet, ma petite fille Léonie va être baptisée à Monaco, à l'église Sainte-Dévote, et que j'amènerai cette eau bénite du Jourdain que j'ai ramenée.
Si vous deviez prendre un autre exemple après la Terre Sainte, par exemple Fatima, donc, qui est un lieu d'apparition mariale, donc au Portugal.
Juste aussi à la Terre Sainte, je voudrais revenir aussi sur la visite du tombeau du juste de Joseph à Nazareth. Et comme c'est cette année, particulièrement l'année de Joseph.
Allez-y.
J'ai été aussi... interpellé sur sa façon de d'être présent auprès de Jésus et alors qu'il n'était pas le père physique de Jésus, et ça m'a rappelé le rôle qu'avait joué mon mari dans l'accueil en tant qu'accompagnateur dans l'accueil éducatif des enfants que je recevais.
C'est
très personnel.
Et on imagine combien ça a dû vous toucher si vous avez élevé en plus des vôtres à peu près une vingtaine d'enfants. Fatima, donc ce lieu d'apparition, qu'est-ce qui vous a plu là-bas? Qu'est-ce que vous pourriez partager aux auditeurs?
Alors Fatima, ça a été un de mes premiers voyages, je crois, à l'étranger. Et la découverte de la Vierge, le secret de ces trois petits bergers qui ont reçu l'apparition, la vision de la Vierge.
Voilà, parce qu'il faut rappeler donc que les voyants de Fatima ont évidemment vu la Vierge Marie, en tout cas c'est la foi des chrétiens, mais ont reçu donc trois secrets. Ce qui vous a touché, quoi, c'est au-delà des secrets, c'est le fait que des gens aient réellement vu la Vierge Marie, ça vous a aidé à rendre concrète, on va dire, ce personnage?
Plus concret, voilà, ce personnage a été plus concret, ces messages d'amour qu'elle nous a laissés m'ont permis d'ouvrir mon esprit
Allez-y Martine Dufour. Pour finir, peut-être, est-ce que vous pouvez nous... Si vous regardez un petit peu en arrière, donc entre la Martine Dufour que vous étiez avant de faire ces multiples pèlerinages et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'oser vous lancer, partir à l'aventure comme ça, et puis de faire des expériences, on va dire, d'église par la même occasion? Qu'est-ce qui a changé chez vous, vous diriez?
J'ai été nourrie dans ma foi. Et cela m'a donné une sécurité, une sérénité d'esprit que j'avais perdue, un isolement dans lequel je ne me retrouvais pas, ayant été entourée pendant de nombreuses années. Ça m'a permis aussi de me rapprocher de l'Église, déjà en pratiquant en étant dans le groupe du mouvement chrétien des retraités. Où j'y retrouve tous les mois une après-midi, une rencontre chaleureuse et puis d'expérience, de discussion.
Merci beaucoup Martine Dufour. Vous m'aviez dit aussi que ça vous avait ouvert des perspectives, que c'était venu vous rejoindre à un moment où vous-même vous sentiez un petit peu l'enfant abandonné cette fois au départ des uns et des autres, et que ça a été donc pour vous l'occasion de renouer avec la vie de l'Église et avec la pratique et avec Dieu. Un grand merci à vous. Je rappelle une dernière fois le titre du livre de Gaëlle de la Brosse, Éloge du pèlerinage, celui-là c'est à paraître à l'automne prochain, et celui qui vient de paraître à Compostelle, Hommage au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, les deux aux éditions Salvator. à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.